Bonjour Peter Zandi, merci beaucoup de répondre à mes questions pour votre livre « Kant chez les extraterrestres » sous-titré « Philosophie-fiction cosmopolitique » paru l'année dernière aux éditions de Minuit. J'aimerais pour commencer mes questions que l'on parle de la toute fin, les derniers paragraphes. Il me semble tout l'enjeu de votre livre dans ces derniers paragraphes, puisque l'enjeu de votre livre, c'est le jeu du regard extérieur, de la plus grande extériorité. Peut-être peut-on commencer donc par cette image fictionnelle, image issue de la fiction cinématographique que vous évoquez dans les tout derniers paragraphes de votre livre. C'est cet épisode de la Guerre des mondes, tourné par Spielberg, où le héros et sa fille sont cachés dans les sous-sols d'une maison. Ils tentent d'échapper à la tentacule d'un tripode martien. Au bout de cette tentacule, il y a un œil, une caméra, et le héros et sa fille, pour lui échapper, se cachent derrière un miroir qui reflète alors l'œil martien. Il y a là un jeu de regard abyssal, un jeu de regard métaphysique, et vous écrivez « Nous, les humains, nous ne nous voyons qu'à la condition du regard de l'autre. »
C'est une scène vertigineuse. C'est une scène vertigineuse qui nous met en présence du regard de l'autre, je dirais même du regard du tout autre. Et il faut peut-être le dire tout de suite, ce regard du tout autre, c'est-à-dire ce regard de l'extraterrestre, de l'alien, alien veut dire autre en latin, c'est un regard tout autre parce que ça n'est pas le regard d'un autre qu'on aurait l'habitude de situer dans quelques hiérarchies connues du type l'animal, l'homme, le divin, ou l'autre alter ego qui vit dans d'autres régions géographiques et qui est au fond mon semblable. C'est pourquoi je tiens beaucoup à préciser que c'est le regard du tout autre. C'est-à-dire, c'est un regard, le regard dont il est question là, un regard qu'on ne peut pas rapatrier d'une façon ou d'une autre dans une hiérarchie ou dans une relation connue, identifiée. Or, ce regard donc de l'extraterrestre, puisque c'est de ça qu'il est question, ces personnages du film se terrent dans une cave, ils essayent d'échapper à cette menace extraterrestre, avec laquelle il n'y a pas d'identification possible dans le film, c'est donc, j'insiste, le tout autre. Eh bien, ce regard du tout autre, c'est aussi, pourtant, malgré tout, le regard que nous sommes en quelque sorte forcés d'adopter. Je veux dire par là que nous voyons ce tentacule extraterrestre qui nous traque, enfin on s'identifie aux personnages humains terriens qui se cachent dans cette cave et qui essayent d'échapper à ce regard tentaculaire. Or ce regard ressemble aussi à une caméra. Ce regard c'est la caméra. Donc ce qu'on voit dans cette scène c'est le regard du tout autre, mais à travers lequel nous sommes en train de le voir, puisque nous voyons devant nous cette caméra même qui nous permet de voir. Et donc nous sommes à la fois en train de voir cela même qui nous donne des yeux, pour ainsi dire, cela même qui nous ouvre les yeux sur le monde du film, la caméra, et en même temps nous voyons cette caméra comme étant quelque chose de tout autre, dont nous ne pouvons absolument pas nous approprier. Et alors nous sommes dans une situation, c'est un peu une schiz, dans une situation complètement bifide. Nous sommes face à un partage, si on veut bien prendre ce mot dans son sens le plus aigu, le plus tranchant, si j'ose dire. Nous sommes face à une situation où notre regard est radicalement coupé, tranché en deux. Nous voyons à travers quelque chose qui en même temps nous échappe complètement, qui est tout autre. Et donc, ce que se dit le spectateur, même s'il ne se le dit pas consciemment, mais enfin, ce qu'il vit, je crois, face à cette scène, c'est une espèce de schiz du regard, de partage ou de partition du regard. Le spectateur regarde à travers un dispositif qui fait partie de son regard, qui lui ouvre les yeux et qui en même temps lui échappe totalement. C'est dans ce sens-là que je crois on peut parler de cette scène comme nous obligeant finalement à incorporer ce qu'on pourrait appeler avec le philosophe Jacques Rancière un partage du sensible, ici un partage du regard. Notre regard est partagé. Donc, ce qui se passe là, qui plus est remarqué d'une manière admirable dans cette scène, avec toute la magie de Spielberg, ce soin du détail et cette intelligence de l'image qui est inouïe. Tout ce que j'essaye de décrire là est remarqué, réinscrit dans l'image, en fait, par un miroir. C'est-à-dire, entre les personnages qui se cachent et ce tentacule extraterrestre qui est à la fois le tout autre et leur regard même, puisqu'il s'agit de la caméra, il y a un miroir. Et il y a un miroir qui les sépare, qui est une sorte de... C'est presque une barre de séparation, une sorte de fraction, en fait, qui est tracée dans l'image, comme une ligne droite qui la déchire verticalement, qui à la fois... inscrit une distance infinie entre eux, entre ces personnages humains terriens et le regard de l'extraterrestre. Et pourtant, ils sont à quelques centimètres l'un de l'autre, mais ils sont à des années-lumière l'un de l'autre. Et en même temps, ce miroir, c'est là où le regard du tout autre se mire, justement, là où on peut le voir, là où on peut le voir en image. Donc c'est à la fois la séparation infinie et ce qui, finalement, inscrit ce regard dans la trame même d'une autre, donc de ce qui est notre regard. Donc on ressort de cette scène, enfin moi j'en ressors à chaque fois bouleversé, on ressort de cette scène en se disant mais finalement la condition pour que je puisse voir quelque chose, c'est que je sois littéralement tramé dans mon regard par du tout autre.
Vous commencez votre essai Peter Zandi non pas par Kant mais par Carl Schmitt, et Schmitt, vous le citez, dit très clairement « L'humanité comme telle, prise dans sa totalité, n'a pas d'ennemi sur cette planète. » Vous voyez, on est proche de la guerre des mondes. Du coup, c'est ce que vous dites. Est-ce que cette phrase « L'humanité comme telle, prise dans sa totalité, n'a pas d'ennemi sur cette planète », phrase de Schmitt, est-ce que cette phrase est un point de départ, un renouvellement de la pensée de la cosmopolitique?
Alors, Carl Schmitt, qui est un penseur absolument passionnant, très controversé, qui a écrit des choses aussi très très discutables, qui est même franchement dérangeante. Carl Schmitt, qui a créé toute une polémique en France autour de son engagement pour la cause nazie. Carl Schmitt reste un théoricien extraordinaire. Malgré, je dirais, enfin, il n'y a pas d'ailleurs de parallèle ou de rapport direct à faire là. Enfin, je ne veux pas entrer dans ce genre de débat. Il s'agit bien sûr de reconnaître son engagement dans la cause nazie, d'en tirer toutes les conséquences et de le condamner avec la plus grande fermeté. Et par ailleurs, il faut aussi le lire en le prenant extrêmement sérieux, comme, je crois, l'un des rares penseurs d'un état géopolitique du monde qui est ce qu'on appelle, alors confusément, la globalisation, la mondialisation, sans toujours savoir très bien ce qu'on entend par là. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Eh bien, comme vous le rappeliez, Schmitt nous dit finalement que nous vivons dans une ère, une époque dans laquelle l'humanité est devenue un concept politique agissant. L'humanité dans son entier, c'est-à-dire très clairement nous vivons des choses, des décisions politiques qui nous engagent en tant qu'humanité, peut-être pour la première fois dans l'histoire du monde, que ce soit des questions écologiques, que ce soit des questions géopolitiques, des questions cosmologiques ou cosmopolitiques. Par exemple, toutes les décisions qui sont prises sur ce qu'on appelle vaguement la conquête de l'espace, l'envoi de satellites, il y a un engin actuellement qui s'est posé sur Mars. Toutes ces décisions-là sont des décisions cosmopolitiques, c'est-à-dire elles engagent l'humanité entière et elles sont débattues comme telles aux Nations Unies. Carl Schmitt nous met très clairement face à cette nécessité de penser, peut-être pour la première fois dans l'histoire, l'humanité comme une entité politique qui a une existence objective, concrète, efficace, effective, par rapport à laquelle Carl Schmitt, lui, est très critique. Mais ça ne doit pas nous empêcher de prendre cet enjeu au sérieux. Et donc, l'humanité... Eh bien, dit-il, ne peut se définir précisément comme concept politique qu'à partir d'un autre, Voilà. Puisque la théorie politique de Schmitt, qu'il développe dans la notion du politique, consiste tout simplement à dire « Toute entité politique ne se définit comme telle que par rapport à un autre qui est l'ennemi, en fait. » Donc l'humanité, dit-il, très logiquement, n'a de sens politique que si elle a un ennemi. Sinon, ça n'est pas une entité politique, ça peut être une entité éthique, morale, économique, tout ce qu'on veut, mais pas politique. Pour que ce soit une entité politique, il faut qu'elle ait un ennemi. Or, l'humanité, dit-il, n'a pas d'ennemi, du moins, c'est précaution ou restriction extraordinaire, du moins sur cette planète. Ce qui rend le discours politique et géopolitique de Schmitt absolument passionnant, puisque avec cette réserve ou cette restriction, il nous projette immédiatement dans un cosmos où, nous dit-il, se joue désormais, puisque la planète sur laquelle nous vivons est, comme il dit lui-même, prise, conquise, donc il n'y a pas de terre vierge politiquement à conquérir sur la planète Terre aujourd'hui. Il y a bien sûr des guerres, des territoires contestés, etc. Mais il n'y a pas de nouveau monde sur la Terre. Donc, nous sommes projetés dans un dehors de la Terre, qui est, d'une part, le seul nouveau monde dont il peut être question, et d'autre part, qui est le lieu où on peut attendre, pour le meilleur ou pour le pire, peu importe, mais où on peut attendre cet autre de l'humanité, cet ennemi de l'humanité, qui, par contre-coup, permet de la définir comme entité politique. Voilà ce que nous dit Schmitt, et en effet, c'est la raison pour laquelle Schmitt, bizarrement, nous engage à reprendre, à retravailler ce concept de cosmopolitisme qui est un héritage plutôt de Kant et par rapport auquel Schmitt a été extrêmement critique, qu'il rend responsable de tous les pires maux de la modernité, donc on ne le suivra pas là-dedans. Mais disons qu'il a cette vigilance et cette force, cette tension conceptuelle qui en gros, malgré tout le désaccord qu'on peut avoir avec lui, malgré toute la méfiance et toute la critique qu'on peut toute la distance critique qu'on peut prendre à son égard, il a cette tension conceptuelle qui nous pousse à réinventer un concept qui par ailleurs pourrait être franchement usé. Le concept de cosmopolitique peut être un concept assez mou politiquement, et Schmitt, justement peut-être parce qu'il en est le plus grand critique, lui redonne une tension qui nous engage à le repenser aujourd'hui.
Et alors c'est en passant de l'étude de Carl Schmitt à celle de Kant que vous employez le concept de philosophiction. Là, on a abordé le terme de cosmopolitique, puisque votre essai Kant chez les extraterrestres est sous-titré philosophiction cosmopolitique. Et donc en passant de Carl Schmitt à Kant, là vous employez le concept de philosophiction. Ce concept, est-ce juste l'usage de la fiction par la philosophie, ici par exemple la convocation par la pensée d'habitants d'autres planètes, c'est-à-dire d'extraterrestres ?
Alors, non, le concept très clairement ne se réduit pas à ça, même si bien sûr, justement au moment où je parle de Kant dans le livre, je découvre et j'essaye de partager avec le lecteur cette découverte, à savoir que Kant s'est intéressé aux extraterrestres d'une manière qui finalement, dans une première approche en tout cas, peut ressembler à des récits de voyage. Donc fiction au sens classique, je dirais. On a l'impression que Kant raconte un peu sur le mode de Defoe, de Robinson Crusoe ou des voyages de Gulliver. Voilà, je suis allé visiter d'autres lieux et on y trouve des habitants qui à la fois nous ressemblent mais qui sont en même temps différents, etc. Ça, c'est une notion de la fiction à laquelle Kant était évidemment très attaché. Kant était un grand lecteur de récits de voyage, qui est une notion, je dirais peut-être pas faible, mais moins forte en tout cas que celle que on est obligé de développer en lisant d'autres textes de Kant, dans lesquels je pense notamment à son Anthropologie d'un point de vue pragmatique, qui est en fait le dernier texte publié de son vivant. Donc dans son Anthropologie, Kant nous oblige à prendre ce terme de fiction dans un sens beaucoup plus grave, je dirais, beaucoup plus déstabilisant, puisque Kant nous dit, au fond, nous ne pouvons nous définir en tant qu'homme, nous, en tant que membres de l'humanité, qu'en nous comparant avec des habitants d'autres planètes que par ailleurs nous ne connaissons pas, auxquels l'expérience ne nous donne pas accès. Et alors là, tout d'un coup, il ne s'agit plus du tout de raconter, d'imaginer ce que seraient les créatures qui peuplent Mars ou Jupiter. Il s'agit au contraire de la fiction comme nous mettant en présence, si j'ose dire, mais enfin c'est pas vraiment une présence justement, comme nous confrontant avec du tout autre, mais un tout autre qui n'est pas une vague absence dont on attendrait éventuellement la dissipation, comme un nuage d'inconnu, mais un tout autre qui nous constitue. Donc, ce que dit Kant d'une manière très étonnante, et ça a été très peu, voire pas du tout commenté, ce qu'il dit à la fin de son anthropologie d'un point de vue pragmatique, c'est que nous ne pouvons, en tant qu'humanité, nous définir comme tels que finalement en nous, si j'ose employer ce terme, que en nous indéfinissant, c'est-à-dire que en nous comparant avec ce tout autre dont on ne sait rien. Et alors l'image qu'on a là de Kant, c'est une image d'ailleurs qui correspond pas du tout à ce qu'on s'attendrait à trouver chez Kant, c'est un Kant presque nietzschéen en fait. C'est un Kant qui est pas loin de définir l'humanité comme le faisait Nietzsche, comme ce pont entre la bête et le surhomme. Le surhomme étant pour Nietzsche pas du tout ce qu'en ont fait les nazis, mais enfin qui, étant cette espèce de tout autre avenir finalement, d'absolument inconnu, mais qui nous constitue. Voilà. Et donc du coup, la fiction là, pour répondre à votre question, la fiction que j'ai donc tendance à appeler une philosophiction. Pourquoi je l'appelle philosophiction? C'est parce que la fiction devient constitutive d'un concept philosophique, du concept philosophique d'humanité, qui, en son cœur, dans son noyau philosophiquement agissant, comporte ce rapport fictif, fictionnel, mais en même temps toujours efficace, au tout autre. Voilà.
Philosophiction, donc, est un autre usage de la fiction, au sens très large, pas au sens de création d'histoire. Kant, de par son point de vue cosmopolitique, conceptualisait une société des nations. Cette idée, à son époque, est une fiction. Or, vous écrivez, cette idée fictionnelle, l'idée de société des nations, cette idée fictionnelle contribue elle-même, en étant énoncée, à sa propre réalisation. Il y a là ce qu'on pourrait décrire, dites-vous, comme une boucle effective, de la fiction idéale ou idéale. C'est quoi ce concept d'effiction? C'est quoi son efficace à ce concept-là d'effiction?
Alors, effiction, c'est un concept que j'ai, comment dire en anglais, coined, frappé, ou disons, plus exactement, c'est un mot, effiction, que j'ai rencontré dans la magnifique histoire de la rhétorique. La rhétorique, la tradition de la rhétorique fourmille de figures qui sont certaines baroques, fantasques, d'autres devenues classiques et même très très usées, voilà, métaphores, métonymies, on en entend tous parler, et fiction, c'est une figure de rhétorique dont probablement personne n'a entendu parler. Je suis tombé là-dessus. C'est un mot qu'on trouve dans des traités antiques, puis des traités médiévaux. Et effiction, donc en tant que figure rhétorique, dit la description d'un corps. La description d'un corps dans tous ses membres, dans tous ses détails. Mais avec une oreille, peut-être un peu perverse, ou enfin, une oreille un peu déformante, un peu amusée aussi, un peu joueuse, j'ai essayé d'entendre dans ce mot quelque chose qui là aussi probablement me vient de Nietzsche, c'est-à-dire le rapport très étroit qu'il y a entre la fiction et l'efficace, l'effectivité. Ce qu'on pourrait appeler, dans des termes empruntés à la théorie du langage, disons, la performativité de toute fiction. Il y a un aphorisme célèbre de Nietzsche dans lequel il parle plutôt de l'histoire, quant à lui, il dit en latin « facta ficta », les faits, ce qu'on rencontre comme étant des faits, les faits sont faits, on pourrait traduire, les faits sont fabriqués, voilà. Ce qui dit bien le pouvoir, la force de la fiction, les faits historiques, ce qu'on pense être des faits objectifs, sont fabriqués. En fait, quand ils nous arrivent en tant que faits, ils sont déjà constitués par de la fiction. Ce qui les trame, ce qui fait la consistance des faits, c'est justement de la fiction. Facta ficta. Alors, dans ce que j'entends en reprenant cette vieille figure de rhétorique, les fictions, j'entends aussi ce double registre, c'est-à-dire une fiction qui est immédiatement efficace, c'est-à-dire une fiction qui produit des faits, en fait, une fiction qui est effective, qui a une efficace, une fiction qui agit, on pourrait dire, effectivement. Or, la philosophie, et c'est pourquoi je parle de philosophiction, la philosophie qui produit des concepts, la philosophie qui a une prétention à la vérité, la philosophie qui prétend produire un savoir sur le monde et une vérité sur le monde, la philosophie repose elle aussi sur ce genre de fiction. La fiction extraterrestre en est une, on en a parlé, sur ce genre de fiction qui produit sa propre vérité, sa propre efficace, ou il faudrait presque dire sa vérification, vérifiction. Voilà, une fiction qui se produit performativement en créant sa propre vérité, puisqu'elle est immédiatement agissante.
Et donc, les fictions, c'est alors les extraterrestres, puisqu'on est dans quand chez les extraterrestres, les fictions, c'est alors les extraterrestres qui ne sont pas là, mais qui nous font agir dans leur absence même, ça vous le dites. Donc ils sont déjà là dans la trame du sensible.
Exactement. Alors on peut jouer avec toutes sortes d'expressions qui circulent dans un imaginaire collectif. Ils sont là, ils ne sont pas là, ils vont arriver, on les attend, etc. Je dirais peu importe, c'est-à-dire qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, qu'ils soient là de façon avérée, prouvée, qu'on les attende parce que probablement ils vont arriver. On ne cesse d'avoir des échos de toutes sortes de régions du cosmos, de toutes les sondes qu'on y envoie, qu'il y a des traces de vie, il y a toutes les conditions pour la vie, donc ils vont arriver probablement. On peut se dire que c'est une question de temps, mais peu importe. Voilà. En fait, qu'il soit avéré ou non, ce que je tiens comme hypothèse, c'est pas une théorie, c'est même pas une hypothèse en fait, c'est une vérité structurelle, je le dis en toute modestie philosophique, hein, c'est comme ça. Donc en fait, ils sont déjà là parce que ils sont déterminants, non seulement, au fond, ce que je dis à la fin du livre, c'est que dès qu'on ouvre l'œil, la guerre des mondes a déjà lieu, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre l'œil, notre œil, notre regard est déjà tramé par ce tout autre, qu'il faut donc inclure, alors philosophiquement, effectivement, mais en tout cas de façon immédiatement efficace et vérifiable ou vérifictive, dans notre expérience du sensible. Et même dans le concept que nous avons de nous-mêmes en tant qu'hommes. Vous savez, pour le dire très très simplement, si on peut se dire membre de l'humanité, c'est-à-dire si je peux dire que je suis un homme, comme vous, comme nous tous, c'est très bêtement finalement, par une sorte de comparaison qui est toujours implicite, mais qui est toujours déjà là, avec quelque chose qui n'est pas un homme. Et qui n'est pas un homme, non pas parce que c'est un animal, non pas parce que c'est un dieu, non pas donc parce que c'est moins qu'un homme ou plus qu'un homme, dans une sorte de comparaison hiérarchique verticale qui nous inscrirait dans une définition très traditionnelle de l'humanité, mais parce que notre représentation de nous-mêmes en tant qu'humains implique une dimension aussi horizontale, qui est une comparaison avec un tout autre qui, je répète, n'est ni animal ni divin, mais qui est un tout autre, justement, extraterrien, que Kant a pris très au sérieux et qui est constitutif de manière effective de la façon dont nous pouvons tout simplement nous penser, nous concevoir.
Merci beaucoup, Peter Zindi, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci.